21h-22h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM dans votre émission Time Foot spéciale Coupe du Monde 2018 après une journée football haute en rebondissement avec le doublé d'un certain Lukaku et les Diables Rouges face au Panama. Le match non passionnant pour certains observateurs du football, mais fort pour Andreas Granqvist et les Suédois face aux Coréens. En attendant le score final du Tunisie-Angleterre, ça sera le fil rouge de cette émission. On abordera cette émission avec le top et le flop des consultants de Time Foot, sans oublier nos fameux débats et analyses où vous pourrez réagir, chères auditrices, chers auditeurs de Beurre FM, au 01 53 48 3000. Les consultants pour m'accompagner durant cette émission, Sadio Diouf. Bonsoir Sadio.
Bonsoir Bilou, bonsoir.
Comment ça va?
Bah ça va impeccable, merci, tout va bien, la Coupe du Monde se passe bien pour l'instant, on est bien, on se régale, on voit des surprises donc on est au top.
Et lui aussi, il en a eu des surprises, c'est Nabil Zindi. Comment ça va Nabil?
Ça va impeccable Bilou, bonsoir à tous. Un peu déçu que l'Algérie ne soit pas là, mais bon.
Aïe, eh oui, mais bon, on pense à eux quand même, au Fennec. Gilles Christ Lawson avec nous aussi pour nous accompagner durant cette heure football.
Salut Bilal, salut à tous.
Nabil Drissi, enfin.
Bonsoir à tous.
Avec nous Nabil, fervent supporter des Tunisiens, c'est bien ça de cette sélection.
Ouais, fervent supporter des Tunisiens.
Ben, on n'oublie pas.
Tous autour de la table, j'imagine.
Ouais, bien sûr. Sur les nations africaines, c'est sûr, ça. On n'oublie pas le hashtag TimeFoot pour réagir sur la Twittosphère, mais aussi sur la fanpage Facebook de l'émission, sans oublier le live sur la page YouTube de Beurre FM. Mais commençons à nous mettre dans le bain de cette émission TimeFoot.
TimeFoot. Le top et le flop.
Justement, on va commencer par le flop de l'équipe de Time Foot, Neymar, Messi, Müller. Comment expliquer la faillite de certains cadres en ce début de mondial? Nabil Drissi, on t'écoute.
Moi, je pense que la plupart des cadres de ces équipes-là ont gagné leur match avant de les avoir joués. Je pense aux Allemands, je pense aux Brésiliens. Je pense, dans une moindre mesure, aux Marocains face aux Iraniens. Ils pensaient tous gagner leur premier match et je pense qu'ils étaient projetés sur leur second match. Et on l'a vu hier, tout le monde pensait que le Brésil allait mettre une « rouste » entre guillemets aux Suisses. Les Suisses ont montré qu'ils étaient une très bonne équipe de football. Pareil pour les Argentins face aux Islandais qui pensaient surclasser cette équipe islandaise. Ils sont tombés sur un os ou un volcan, comme vous voulez. On dit qu'en Islande, il y a plus de volcans que de joueurs de football.
C'est très bon.
qui ont montré qu'ils ne déméritaient pas. Moi, cette équipe islandaise m'a impressionné parce que physiquement, ils ont éteint ces Argentins.
Toujours au rendez-vous, ces Vikings.
Toujours. Les Suisses, avec leurs joueurs issus des communautés étrangères du Kosovo, de l'ancien bloc yougoslave, ont montré qu'ils savaient jouer au ballon et ont éteint cette équipe brésilienne. Voilà, c'est tout. On joue pas un match, on gagne pas un match tant qu'on l'a pas joué. Et c'est ce qui s'est passé sur ces premières confrontations.
Gilles Christ-Lawson, sur ce flop de l'équipe.
Je le partage entièrement ce flop, puisque après une rencontre, c'est vrai que on voit que les soi-disant grandes équipes n'ont pas encore répondu présent à l'image, la France, dans une moindre mesure la Belgique.
La Belgique.
Et donc pour le reste, ça a été un peu plus difficile, plus poussif. Donc pour les équipes comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme dans une moindre mesure aussi une équipe comme l'Allemagne, non, pas dans une moindre mesure, même surtout une équipe comme l'Allemagne, on va y revenir tout à l'heure. Je pense que ce début de mondial montre qu'il ne suffit pas de rentrer sur le terrain et de pointer donc sur la feuille de match pour pouvoir gagner une rencontre aussi facilement que ça en a l'air. Il y a 11 joueurs qui jouent. Ouais. Et il faut bien sûr être à la hauteur donc du rendez-vous et être prêt donc mentalement, physiquement et tactiquement pour être au rendez-vous donc d'un match de Coupe du Monde.
Ouais, Nabil, oui.
Tu me permets d'intervenir. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, Gilles Christ, mais quand t'es l'Allemagne, que tu joues le Mexique est une équipe de la CONCACAF qui terminent souvent, qui gagnent souvent la Coupe de la CONCACAF. Moi, ce n'est pas les Allemands que j'ai envie de blâmer. C'est les Brésiliens, c'est les Argentins qui jouent contre des...
En termes d'investissement, le comportement des Allemands est quand même à blâmer au niveau des latéraux et des milieux de terrain, quand même.
Qui ont défense, été... Oui, mais tu joues, le Mexique. Tu joues le Mexique. En face, le Brésil jouait la Suisse. L'Argentine jouait l'Islande. Dans une moindre mesure, je donnais l'exemple du Maroc qui jouait les Iraniens. On s'est dit, ouais, les Iraniens, Carlos Queiroz part, c'est une petite équipe, elle est en plein renouvellement. Et là, tu vois des surprises. La surprise, l'Iran gagne. L'Islande accroche les Argentins avec Messi, avec toute l'armada offensive. Les Brésiliens ont été éteints par les Suisses hier.
Ça, voilà. Surprendre par la Suisse.
Voilà.
Ouais.
Donc, quand je vois le match de l'Allemagne, je suis étonné, mais pas tant que ça, parce qu'on a une belle équipe du Mexique en face.
Ouais, Nabil Zendiek, est-ce un simple accident ou quelque chose, excusez-moi, de plus profond?
Bah écoute, concernant l'Allemagne, non, je suis pas surpris. Moi, ils m'ont pas convaincu lors des matchs amicaux, parce qu'ils ont eu
des difficultés
avec l'Arabie Saoudite, on a pu le voir. Et puis la défense centrale, Boateng, Matuidi, je suis pas convaincu non plus. Et puis ils étaient désorganisés. Après, faut savoir que les mondialistes, ils ont du mal à confirmer. Ça s'est passé avec les Espagnols qui ont été champions du monde en 2010, qu'ils ont été éliminés en 2014.
Ouais.
Donc peut-être l'Allemagne a du mal peut-être.
Ah, la France aussi.
La France l'a fait deux fois de suite.
En 2010 aussi.
Ouais,
donc effectivement peut-être que l'Allemagne s'est vue trop beau ou trop belle et finalement voilà ça avec une belle équipe mexicaine malheureusement, ils sont passés à travers.
Ouais.
Après, concernant l'Islande, non, c'est une belle équipe. Ils ont fait un bel Euro 2016 où ils étaient quart de finaliste. Donc, j'étais pas surpris parce que c'est bien organisé. C'est une équipe qui joue bien au ballon et qui est tactiquement en place. Tu vois. Après, le flop, c'est vraiment Léo Messi. Franchement, Messi, oh là là.
Toi, c'est Messi.
Messi, il m'a déçu. Hein.
Alors,
des contrôles, pénalty,
les pénalty. Qui regrettera peut-être Salou Diouf concernant ce flop de l'équipe.
Bah, pour l'Allemagne déjà. C'est, je rejoins le point de vue de Nabil. En fait, c'est clair, c'est la déception et ce sera la déception de cette Coupe du Monde. Ils sont champions en titre, les mecs, et derrière, ils ont mal préparé cette phase de préparation. Si t'arrives pas à battre l'Arabie Saoudite, il y a un gros problème, franchement, parce que l'Arabie Saoudite.
Mais ils ont battu.
Non, enfin, galéré plutôt, parce qu'ils ont encaissé un but, ça fait 2-1. Je veux dire, c'était très poussif à la fin. Et si t'arrives pas à faire un grand match contre cette équipe-là, ou alors à complètement éteindre le truc, je pense qu'il y a un gros problème. Et finalement, ça s'est vu même hier. Et quand tu entends derrière Mats Hummels qui pousse plus qu'un coup de gueule.
Il s'en est pris à ses coéquipiers.
J'ai pas eu la traduction, mais vu ce qu'ils excusent, quand ils gueulaient, j'ai compris que c'était grave.
Exactement. Mais ça, c'est important à souligner parce que c'est une phase de cohésion. Et si t'as plus cette cohésion-là, tu peux pas forcément aller.
Après, la défense allemande est aux abois. Mats Hummels, le Bayern n'en veut plus. Boateng est annoncé à la Juve, le Bayern n'en veut plus. Le Bayern recherche une charnière centrale. Faut se rappeler que la charnière allemande, c'est la charnière du Bayern. Et ces joueurs-là, ça fait 6-7 ans qu'ils jouent déjà ensemble.
Je pense qu'il y a un groupe cassé, peut-être.
Je pense qu'il y a de l'usure.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'arrogance aussi?
Aïe.
Les Allemands arrogants?
Non.
Un petit peu.
Pas comme les Français, non.
Attends, quand je parle
d'arrogance footballistique.
Oui, non, j'étais compris. Mais moi, j'ai envie de te prendre. Je fais un parallèle avec ce que tu disais. Est-ce que la France a joué contre les États-Unis, n'aura passé qu'un but, donc la France va se casser les dents, pour reprendre ton exemple avec l'Arabie Saoudite. Non, je pense que l'Allemagne est usée mentalement. Il faut pas oublier que la plupart des joueurs jouent à peu près 60 matchs par saison. Ouais,
comme tous les grands joueurs du monde. Cristiano Ronaldo, il joue à peu près pareil. Mais
non, mais là, c'est toute une équipe. Là, c'est une équipe.
Parce qu'il faut rappeler aussi que l'Allemagne, c'est une équipe depuis 2004. Après l'élimination à l'Euro, donc de 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est une équipe qui a toujours fait demi-finale et qui a toujours été performante dans cette sélection sous l'égide de Joachim Löw. Ça fait maintenant 12 ans, ça commence peut-être à faire long, il faut peut-être un renouvellement, mais on est au niveau du premier match. Il y a des inquiétudes du côté de l'équipe d'Allemagne au niveau des latéraux, au niveau des milieux de terrain.
Est-ce qu'ils vont monter en puissance petit à petit au fil des matchs?
C'est ça,
on l'espère.
En tout cas, il doit y avoir une réaction qui doit être effective dès le match contre la Suède.
Compliqué contre la Suède qui a gagné aujourd'hui, donc.
C'est vrai, face aux Coréens.
Et contre une équipe qui a fait le plein de confiance, ça va être compliqué. Il faudra montrer autre chose que ce qui a été montré hier.
Après Deutsch Qualität, je m'inquiète pas pour eux. Les Allemands, ils ont un bon.
Messieurs, chers consultants de Taifoot, on va passer au top de cette émission. La belle prestation des Mexicains contre l'ogre allemand. Justement, Le but de Lozano contre l'Allemagne provoque un mini-séisme dans l'agglomération de Mexico. Un tremblement de terre.
Le sol a tremblé, ouais.
Comme quoi, le foot, hein.
Tu nous autorises à rappeler ce qui s'est passé juste avant le mondial avec les Mexicains. Non, mais c'est important. Ils se sont, sont fait tailler en pièces, les joueurs mexicains. La plupart des joueurs ont été rappelés par leurs femmes pour rendre des comptes. Et on a une équipe.
La confédération du CONCACAF, faut le rappeler.
Et une équipe gonflée à bloc, une équipe qui joue très intelligemment. Les deux des meilleurs joueurs de cette sélection, les frères Dos Santos, n'ont pas joué hier.
Ils étaient sur le banc.
Et ça montre la profondeur de ce banc et de cet effectif. Maintenant, le Mexicain s'exporte bien en Europe. Beaucoup jouent en Espagne, dans des championnats
Carlos
aux,
Fela,
Chicharito.
Chicharito
en Angleterre.
Tu parles de marchandises. Le Mexicain s'exporte.
Non, mais footballistiquement, tu m'as compris.
Non, d'accord.
Mais voilà, moi, je mets une pièce. Et chaque Coupe du Monde depuis 6 ans, depuis ces 6 dernières Coupes du Monde, le Mexique est présent en quart de finale. Ils se font sortir. Mais c'est une bonne surprise à chaque fois.
Et deux points aussi à souligner dans, cette équipe du
sur
Mexique.
Le top.
Sur le top, déjà, tu as Memo Ochoa qui est un gardien formidable sous-côté, franchement.
Il est trop sous-côté.
Il est très sous-côté.
Mais tu en parlais.
Sous-côté, je sais pas.
Il a fait une erreur dans son choix de carrière en signant en Malaga, ce qu'il a plombé. Il a été remplaçant de Carlos Kameni pendant 2 ans. Pour terminer au standard de Liège, et qui petit à petit revient. Mais c'est pas un gardien sous-côté.
Si, un petit peu quand même. Non, si tu regardais un petit peu, si tu écoutais un peu les spécialistes, la statistique qui lui collait à la peau, c'était le record de buts encaissés dans son championnat. C'est la statistique qui lui collait tout le temps à la peau. Donc forcément, Ochoa, c'est pas un gardien top niveau. Alors que c'est un gardien top niveau, franchement, mondial.
Je pense que c'est un gardien de compétition. Je pense que c'est un gardien de coupe. Mais après, pour un gardien de championnat, sur la régularité, donc sur toute une saison, sur 10 mois, c'est peut-être autre chose.
Mais c'est les gardiens sud-américains qui sont victimes de cette maladie.
Parce que tu le mets dans un autre club. Je pense que c'est pas la même chose. Tu le mets par exemple dans un club français, on va citer un club français, l'Olympique Lyonnais. Il a un bon quota de buts, je pense. Il encaisse un quota de buts plus que raisonnable et puis il fait des matchs plus que corrects, je pense, avec une défense plutôt de bon niveau.
Moi, Mokhtar Diakabi, Yann Gambioua,
on revient à Gilles Chris.
Pour revenir sur le match, moi, j'étais vraiment fan de la tenue de balle des Mexicains lors de cette rencontre. Et en plus, ils sont venus avec un plan en tête, en se disant qu'on va mettre des ailiers par rapport aux latéraux allemands qui étaient beaucoup trop hauts. Et donc, on va essayer de prendre la profondeur. Et avec la tenue de balle d'un joueur comme Guardado, qui est malheureusement descendu avec la Corogne ou encore avec Hector Herrera, la tenue de balle qu'il y a eu au milieu de terrain, donc avec un pressing tout terrain pendant la première heure de jeu, a montré que cette équipe mexicaine était à prendre vraiment au sérieux donc dans cette compétition. Et après, dans la gestion de la fin du match, ils ont reculé parce qu'ils pouvaient pas tenir le rythme.
Ils ont bien défendu, hein.
Exactement.
Parce que je pensais qu'ils allaient craquer.
Ils ont pris cette équipe à leur main, en fait. Ils ont dit, voilà, on joue pendant une heure, on fait un pressing tout terrain, et dans les dernières minutes, on joue regroupé donc autour des 30 derniers mètres, et encore on joue en contre-attaque, et on arrive toujours à faire circuler le ballon. C'est ça qui est intéressant dans cette équipe, qu'elle arrive à être au-dessus de cette équipe d'Allemagne dans la gestion du match et dans même l'histoire de cette rencontre.
Gilles Christ, dans la dernière demi-heure, ils se sont permis de faire rentrer un gars de 39 ans, Rafael Marquez, qui joue à Monaco et au Barça. C'est dire la confiance de ces mecs. Moi, ça me rappelle, pour ceux qui s'en souviennent, Cuauhtémoc Blanco, le capitaine emblématique de la tri.
Qui avait marqué contre la France en 2010.
C'est ça, le mec, ils savent former de vrais défenseurs, des bons contre-attaquants, parce que ça contre-attaque à 2000 à l'heure, ça va super vite, et c'est discipliné. Qu'est-ce qu'ils sont disciplinés, cette équipe?
Mais c'est une équipe bien en place, le Mexique, franchement. Une belle équipe en place tactiquement, et puis ça jouait les contres. Ils allaient à 10 000 à l'heure en contre, et en sachant que la défense centrale, c'est Boateng, justement, qui sont super lents, on le sait très bien, et les latéraux, comme tu disais, qui montent super haut. Du coup, il y avait un coup à jouer, ils l'ont très bien exploité, ce qui a fait qu'ils gagnent 1-0. Et aussi l'expérience, parce que comme tu disais, ils ont fait entrer des joueurs expérimentés à la fin pour tenir le score. Et ils l'ont fait.
Un joueur comme Marquez, 5 Coupes du Monde, c'est vraiment
exceptionnel. Parce que les Allemands ont quand même poussé à la fin. On pensait tous qu'ils allaient revenir. On s'est dit non, c'est pas possible.
Mannschaft.
Je croyais le club.
Et finalement, voilà, ils n'ont pas craqué. Donc franchement, chapeau mexicain. C'est bon augure pour la suite.
On le rappelle à tous les auditeurs de Beurre FM que vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. Mais avant la pause, on t'écoute, Sadio.
Nabil parlait de Rafael Márquez, mais justement, quand Rafael Márquez entre sur le terrain, les mecs au Mexique, il a beau avoir 39 ans, c'est une légende qui entre. Ouais. C'est vraiment plus qu'un complément. C'est le mec, il a le respect de tout.
On lui donne le brassard direct.
Voilà, exactement. Ça, lui... Et tu vois, c'est assez symbolique parce que normalement, un mec de 39 ans sur la fin comme ça, si t'es un joueur professionnel, tu te dis, ouais, bah, on va quand même prendre un petit peu plus de recul pour pouvoir aviser si jamais. Ouais. Mais là, pour le coup, non, c'est confluent.
Tout le monde est logé à la même enseigne.
Voilà, exactement. Et ça, c'est une force pour cette équipe mexicaine.
C'est clair. En tout cas, j'espère qu'il va marquer, un but encore pour qu'il soit aussi le deuxième joueur avec Cristiano Ronaldo à marquer sur 4 phases finales de Coupe du Monde, ce qui serait encore un record pour lui.
Et on souhaite au Mexique de sortir de ces quarts de finale qui leur sont, je cherche le mot, mais fatales à chaque Coupe du Monde. Moi, je souhaite les voir un cran au-dessus. En huitième, voire en demi, il le mériterait parce qu'il joue un très bon football. Et rendons hommage au sélectionneur qui est un mec du cru. On n'est pas allé chercher un Brésilien ou un Français. On fait avec les forces du pays. Et chaque compétition, on a un nouveau sélectionneur. Et il nous propose à chaque fois une composition osée. Et une belle équipe qui joue vraiment au ballon.
Ils avaient une belle équipe à l'époque avec Ricardo Lavolpe.
Oui,
en 2006. Ouais. C'était un étranger. Je dis ça,
ouais,
je dis rien.
Mais du cru, ouais. D'Amérique. On va pas chercher c'est un hispanique. C'est un hispanique. Et c'est rare. Regarde, nous, les Africains, notre problème, c'est quoi?
Non, mais ça,
c'est pareil. C'est la même chose.
Bon, c'est sérieux.
C'est la même chose.
On verra bien, en tout cas. C'est quoi le problème des nations africaines dans le football? Sadio, t'inquiète pas. Non. On va arriver à cela. Ouais. On a un invité spécial ce soir, Salim Benachour, ancien international tunisien, qui sera l'invité de cette émission de Time Foot. On n'oublie pas de réagir avec le hashtag Time Foot, mais aussi d'appeler, chers auditrices, chers auditeurs, le 01 53 48 3000. Une courte page de pub avant de revenir en live avec vos consultants.
Time Foot revient dans un instant. Beurre FM. 21h-22h. Time Foot avec Bilal Nenman.
Et de retour en live sur Beurre FM, 21h-22h du lundi au vendredi. Et on n'oublie pas, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM, le samedi c'est 18h-20h avec vos consultants, le hashtag TimeFoot sur la Twittosphère, sans oublier la fanpage Facebook, mais aussi sur les pages de votre radio préférée, Beurre FM. On part de suite pour le premier débat de cette émission.
TimeFoot. L'analyse.
Justement, l'analyse parfaite, elle est pour cette Mannschaft, Nabil Zindik. Le premier débat, l'Allemagne peut-elle sortir dès les phases de poule sur ce Mondial Russie 2018? Et nous t'écoutons, Nabil.
Écoute, c'est fort possible, hein, vu ce qu'ils ont démontré contre les Mexicains. Là, franchement,
ça fait peur, là. Là,
ils font super peur. Moi, j'ai trouvé la deuxième mi-temps, les Allemands super désorganisés. Ils attaquaient tous, il n'y avait plus de défense. Ils étaient à deux derrière, donc ils auraient pu prendre un 2-0 clairement. Facilement.
Imaginez si la France aurait rencontré le Mexique à la place de l'Australie.
Ouf, ça aurait été une autre
question. J'en ai du mal contre l'Australie. Ouais. Alors le Mexique, c'est un...
On poursuit avec l'Allemagne, Nabil.
Donc non, les Allemands, franchement, au début, je me suis dit, bon, ils vont gagner. Finalement, au fur et à mesure du match, effectivement, j'ai vu une Allemagne qui faisait fébrile, qui faisait peur. J'étais anxieux pour eux, et quand je regardais le visage de Joachim Löw, le sélectionneur, j'étais un peu surpris parce que tactiquement, lui qui nous a habitués à de grandes choses, finalement il n'a rien proposé, même en deuxième mi-temps. J'ai pas vu un changement de rythme ou une autre organisation ou une révolte de ses joueurs. C'était un peu stérile, et là je me suis dit, bon, c'est fini pour les Allemands, et là ils me font vraiment peur pour la suite. Parce qu'il n'y a pas de leader. J'ai pas vu un leader lorsqu'ils étaient menés 1-0. J'ai pas vu une révolte des joueurs. Et ni du sélectionneur qui a quand même fait des changements, qui a essayé d'apporter offensivement. Mais d'ailleurs, avec le joueur qu'on a pu voir avec de Leipzig, Brummer, j'étais un peu déçu de sa prestation. Thomas Müller également. Donc les grands joueurs n'ont pas répondu présent, à part Toni Kroos, que j'ai trouvé bon sur ce match. Mais ça n'a pas été suffisant sur les coups de pied arrêtés, comparé à un Ronaldo qui a fait la différence contre l'Espagne.
Non, Müller, il a l'image de sa dernière année. Thomas Müller, c'est à l'image de ses dernières saisons, de toute façon.
De sa saison, je pense qu'il a été
Son il a été en déclin depuis la Coupe du Monde, depuis 2014.
Non, ça pas autant de temps, quand même.
Mais Müller,
quand même le pied carré.
On parle de Müller.
Gerd Müller, non.
Ouais, non, Gerd Müller, 13 buts lors d'un... Non, 10 buts lors du Mondial
70.
82, j'étais, mais non. La prestation désastreuse, plutôt, de Khedira et de Ozil, j'ai écrit ça. Non, pas d'accord, peut-être, avec Nabil.
De Khedira et d'Ozil et de Kroos. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a une statistique qui est ressortie, c'est que les trois joueurs n'ont pas gagné un duel lors de la première période, ce qui est symptomatique donc d'un milieu qui a été défaillant sur cette rencontre. Et la sortie prématurée donc de Khedira donc à l'heure de jeu n'a pas rangé les choses et c'est venu comme une sanction pour Khedira donc par rapport à cette rencontre. Cette équipe d'Allemagne, franchement, moi, je suis vraiment très surpris, justement, par le comportement des latéraux sur ce match. Plattenhardt, j'ai rien contre lui, c'est un bon joueur peut-être en Bundesliga, et Kimmich ont été donc quasiment des contre-attaquants, un petit peu comme on est en train de voir donc dans le football moderne, donc de ces latéraux qui font que monter, mais qui oublient de défendre. Et du coup, quand on voit donc les Mexicains comment ils ont utilisé donc les ailes et l'espace, en fait. Du fait que dans l'axe il n'y avait pas forcément d'opposition forte, c'est très inquiétant quand même pour cette équipe d'Allemagne qui devra revenir à des fondamentaux et plus de discipline au niveau donc de la défense et aussi de la construction du milieu de terrain pour mettre le pied sur le ballon et laisser moins d'espace à ses adversaires. Et contre des adversaires comme le prochain adversaire contre la Suède, il y aura plus la possibilité de faire cela, et aussi contre la Corée du Sud. C'est pour ça que je suis inquiet sur le premier match, mais que sur les deux autres, il y a la possibilité pour les Allemands de revenir à leurs fondamentaux et se qualifier.
Ouais, Nabil Dressi.
Est-ce qu'il y a encore, Joachim Löw peut nous surprendre encore? J'en suis pas sûr. Quand il sort Khedira, il laisse Ozil qui erre comme une âme en peine au milieu du terrain. À un moment, je l'ai plus reconnu, Ozil. C'est vrai qu'il ne savait pas jouer au ballon.
Par contre, lui, à l'image de cette dernière saison, depuis le Mondial 2014, Ozil, il y a de quoi dire quand même sur son rendement, que ce soit en sélection ou en club.
En sélection, il est esselé. Khedira fait une super saison avec la Juve. Après, si tu n'es pas soutenu au milieu du terrain, que tu es seul à courir dans le vent, Toni Kroos, il fait une super saison avec le Real. C'est avec des mecs qui ont fait une super saison. À la différence
de la Champions League, hein.
À la différence d'Ozil qui a pas fait une grande saison
avec
Arsenal.
Lui, il a Casemiro, lui.
Comment?
Il a des automatismes parfaits avec Casemiro.
Ben ouais, mais tu es en sélection, c'est des mecs qui jouent depuis 10 ans ensemble. Alors, Khedira, Ozil jouent ensemble depuis 10 ans avec Toni Kroos. Là, on les a pas reconnus. Et est-ce que Joachim Löw va nous surprendre à changer son milieu de terrain, sa défense? Tu parlais de pistons, mais c'est des pistons rouillés les deux.
Ça monte,
mais ça revient plus.
C'est clair, mais moi, justement, Kimmich, par rapport à sa saison au Bayern, c'est un latéral qui sait se projeter vers l'avant, mais qui sait aussi bien défendre et qui aussi peut être un support au milieu de terrain. Il n'a pas répondu à aucun de ses rôles. Et c'est ça qui est inquiétant. Peut-être qu'il faudrait le sortir du 11. C'est une option.
Ouais.
Je peux terminer sur
Plattenhardt de la Mannschaft.
J'ai cru qu'il jouait devant. Il était posté devant à un moment. Le travail défensif.
Il était même devant Draxler.
Et t'as Boateng et Mats Hummels. Ils ont des défauts. Mais quand tu dois. T'as tes latéraux qui ne reviennent pas. Tu subis. Tu finis par prendre un but. C'est ce qui s'est passé hier.
Cette équipe est-elle repue de titre, Nabil Zindik?
Oui. Non, je pense pas.
On a marre, peut-être.
Non, je pense pas. C'est des compétiteurs, quand même. Après, justement, avec l'expérience du sélectionneur qui a joué avec Kim Le, non, je pense que ils sont passés à travers. Peut-être que finalement, ils se sont vus trop beaux. Finalement, peut-être ils ont une préparation compliquée. Il y a eu aussi des petits soucis avec Gundogan, je crois. Il y a des joueurs qu'on attendait, qui n'ont pas répondu présent. Comme on parlait tout à l'heure de Toni Kroos, moi j'ai trouvé que justement, il a été bon au milieu de terrain comparé à Khedira ou à Ozil ou à Draxler aussi. On ne savait même plus il était où sur le terrain. Donc effectivement, ça fait beaucoup de choses. Et puis, ils n'ont pas trop d'attaquants. Quand tu vois que le nombre d'occasions qui se sont créées, ils n'arrivent pas à mettre un but. Franchement, là, ils font vraiment peur défensivement, au milieu de terrain, comme on l'a évoqué, et offensivement. Donc offensivement. Là, je t'avoue que c'est compliqué.
Et ils ont fait rentrer Mario Gomez pour ne pas apporter de l'impact de la surface.
Rapidement.
Moi, pour le coup, moi, je suis plutôt fataliste. Je pense que l'Allemagne sortira de ses poules troisième ou quatrième.
Je pense aussi, ouais.
Ouais, parce que non, mais tous les quatre ans, t'as forcément un gros qui tombe, et cette année, ça va tomber sur l'Allemagne. Il y a un débat qui va s'ouvrir en Allemagne. Ouais. C'est à la fin de cette compétition, c'est l'annonce élection de le roi Sané, je pense.
Ah ouais.
Et je pense que l'eau devra rendre des comptes sur ce point-là. Et qu'eux-mêmes, ils poursuivront l'aventure, parce que c'est aussi une fin de cycle, comme la plupart des gars le disent autour de la table. Et moi, j'y crois, cette fin de cycle. D'accord. Et retrouver une équipe de jeunes pour créer un autre style de football allemand.
On l'espère.
Salut, tu dis vite une fin de cycle rapidement, mais c'est des mecs qui ont moins de 30 ans ou 30 ans à peine. Tu te rends compte qu'on
c'est des mecs qui ont gagné le Graal suprême.
Ouais, mais Zidane, Zizou a dit constamment, regarde, il a qu'à pratiquement 50 ans et il a toujours envie de titre.
C'est clair.
C'est quelque chose, c'est une culture en fait.
Ouais,
ils ont la culture de la gagne.
Alors, c'est ça, ils ont la culture comme Cristiano aussi, Ronaldo, oui. Là. Tu vois, il est insatiable.
Ouais. Alors justement, le fil rouge entre la Tunisie et l'Angleterre, toujours un but partout, 68e minute, Nabil Dressi. Que se passe-t-il?
Coup franc pour les Allemands qui passent à côté.
Pour les Anglais.
Pardon, on était dans l'Allemagne.
L'Allemagne, c'est pour le prochain tour.
Tunisiens n'auront pas, mais c'est mon pronostic. Hein, 1-1 pour dans cette rencontre.
On poursuit cette émission.
Time Food. L'analyse.
Avec le second débat concernant la Suisse. Peut-on compter sur les Helvètes dans ce mondial, messieurs, justement, avec la surprise face au Brésil de Neymar ou encore Casemiro, ou est-ce d'autres joueurs tels que Thiago Silva qui reste émerveillé toujours par cette ambiance phare du côté du Vélodrome? Salut, tu le savais ça?
Ah bah c'est toujours. Ouais. Les Parisiens sont toujours émerveillés par l'ambiance du Vélodrome, ça c'est clair et net.
Jésus-Christ, on t'écoute concernant cette Suisse justement, son entrée dans le mondial face au Brésil.
Cette équipe suisse, elle a eu des difficultés quand même à rentrer dans ce mondial face au Brésil. Donc sur la première mi-temps, on a senti une équipe qui se cherchait. Donc dans le placement défensif, comment jouer contre Neymar. Donc elle a été très agressive vis-à-vis de Neymar. Et après, donc à partir du moment, elle a concédé le premier but par Coutinho, un super but. Ils ont commencé à sortir. Et c'est en seconde période qu'on a vu cette équipe suisse gagner du terrain, se placer un peu plus haut et avoir une discipline défensive et une rigueur qui a contrecarré les ambitions brésiliennes, notamment donc dans l'animation du jeu en attaque et notamment dans les 30 derniers mètres. Et cette équipe suisse, on l'a pu le voir dans les phases éliminatoires, elle a perdu qu'une seule fois depuis 2 ans. Elle a perdu contre le Portugal la finale du groupe dans les éliminatoires, et c'est une équipe qui n'a pas perdu contre l'Espagne puisqu'elle est en préparation, et elle est dans la continuité de ce qu'elle sait faire aussi. Et donc on peut aussi se rappeler de ce qu'elle a fait au dernier mondial. Elle a posé des difficultés énormes à cette équipe d'Argentine qui s'est qualifiée donc au bout de la prolongation. Quand on voit ces 4 dernières années du côté des Suisses, même s'il y a eu un euro qui était décevant, les Suisses ont répondu présent avec leurs moyens. Et ça donne un résultat nul qui promet de bonnes choses pour cette équipe.
Oui, Nabil Dressi, la belle prestation du gardien Sommer.
Ah mais Jan Sommer, ouais. Mönchengladbach, c'est le gardien de Mönchengladbach, ça fait des années qu'il est
en
super
niveau. En plaisir à Nassim Bourras.
Ouais, on lui passe le bonjour, je lui ai dit que j'allais taper sur les Allemands.
Ouais.
Non mais moi je veux parler de cette génération de joueurs, Berami, Seferovic, Shaqiri, Zemaili, qui jouent tous dans des top championnats, ils jouent en Bundesliga ou jouent dans le calcio italien, ou en Angleterre pour Shaqiri. Donc, je ne suis pas étonné, c'est une super génération qu'ils ont eue. Grâce ou à cause de la guerre dans les Balkans, ça leur a fourni énormément de joueurs issus du Kosovo, d'Albanie. Et ça a permis d'avoir une équipe de Suisse qui n'apparaissait pas dans les grandes compétitions avant 1990. Et après 1990 et la formation de ces jeunes immigrés, on a une superbe équipe de Suisse. Et moi, ils ne m'étonnent pas. Ils ont mis Zemaili et Berami sur Neymar, ils ont éteint cette équipe brésilienne.
Mais il y a eu beaucoup de fautes de leur part quand même sur Neymar.
Intelligente, loin de leur camp.
C'est clair.
De leur camp.
Et même Neymar s'était plaint aussi donc, du traitement qu'il a eu de la part des Suisses et donc de l'arbitrage.
Ouais. Il a raison, moi je suis d'accord avec Neymar.
Génération parfaite, pourquoi Nabil Djindic ?
La différence sur son côté, l'arbitre a été un peu laxiste. Hein. Je trouve qu'il n'a pas trop sorti de carton jaune.
Il a mis un carton à Berrani.
Ouais, mais Neymar est sûr de sa réputation.
Ouais, mais certains saluent aux bookmakers anglais et même à l'échelle mondiale disent que Coutinho est-il le vrai leader de Seleção ?
Neymar, pour moi c'est Neymar.
Neymar.
Ça restera le leader technique, Neymar.
Il dit que justement Coutinho serait peut-être.
Il a le devoir d'assumer ce statut de leader technique. Il a le devoir.
Non, mais on l'a vu. Après, à un moment donné, je crois, en deuxième mi-temps, il joue plus au numéro 10. Il fait le jeu, il donne un ballon à Coutinho, où normalement c'est un but. Honnêtement, non, cette équipe brésilienne m'avait convaincu sur la première mi-temps, où franchement, il méritait de gagner 2-3-0, facile. Et en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être avec la fatigue, puisque Tite a remplacé, le sélectionneur brésilien a remplacé ses milieux de terrain, parce qu'il a fait sortir Casemiro à la 59e minute.
Mais il y avait une sorte de léthargie, en fait, dans cette équipe.
Voilà, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas. Il manquait quelque chose en deuxième mi-temps. Après, ils ont poussé suite à l'égalisation suisse, hein, que. On peut se poser la question, y avait-il pénalty ou pas, parce qu'il y a quand même une petite poussette sur Miranda.
Il y a une faute.
Ah,
faute,
y a une faute, et bizarrement, l'arbitre n'a pas regardé la vidéo. Donc, ça m'a fait un peu rire. Et du coup, non, les Brésiliens, moi, m'ont convaincu avec des joueurs comme Coutinho, avec Neymar, avec Firmino qui est rentré, avec Thiago Silva, Paulinho, etc. Avec Marcelo, non. Le seul bémol, je pense que la faiblesse du Brésil, c'est l'arrière droit, Danilo. Sinon, l'équipe allait au top individuellement.
Je sais pas, moi je regardais, par exemple, Paulinho, il a été indigent, il a été à l'image de sa deuxième partie de saison.
Il a été remplacé d'ailleurs.
Il a été remplacé. C'était normal, puisque en fait, il a pas montré qu'il avait le niveau pour jouer ce match de Coupe du Monde en tant que titulaire.
Non, mais c'est la faute du Brésil ou c'est grâce à la Suisse, tu vois? Ouais. Pour moi, c'est la Suisse qui a fait déjouer le Brésil. Ouais. C'est pas le Brésil qui a mal joué.
Ils ont eu plus de la possession du ballon, les Brésiliens, ils ont plus d'action. Ils ont dominé largement au niveau des tirs, des centres. Après, ils sont tombés sur un très très bon gardien, Sommer,
qui a fait un bon match, oui, mais attention, mais qui a pas fait le match de sa vie, mais qui a fait un bon match.
Justement, concernant ces Helvètes.
Faut dire les choses, pour la Suisse, c'est un excellent résultat. Faire match nul contre le Brésil en premier match de poule, c'est un très bon résultat. Mais par contre, il va falloir la suivre attentivement, cette équipe, parce que attention à l'excès de confiance dans les prochains matchs pour les Suisses. Parce que là, quand même, ils sortent, même s'ils ont bien. Voilà, ils ont beaucoup défendu dans ce match-là, attention à pas prendre un peu trop de confiance et puis croire qu'on peut dominer face à des adversaires un peu plus faibles, enfin avec un standing un peu plus bas. Et c'est surtout ça. Mais ce qui est intéressant avec cette équipe, en fait, c'est que le collectif est solidaire. Et ça peut généralement tu déplaces des montagnes avec cet état d'esprit là. Donc s'ils gardent cet état d'esprit aussi, eh ben ça peut être aussi.
Rappelons aussi que les Suisses sont 6e au classement FIFA. C'est vrai,
mais
que
classement FIFA ça veut tout et rien dire.
Ça veut tout et rien dire, mais cette équipe n'a pas perdu depuis à peu près 23 matchs. Donc c'est enfin une fois en 23 matchs.
On rappelle
donc
son groupe. La Croatie, la Turquie en match de qualification pour la Coupe du Monde. Ils ont la Turquie et la Croatie dans leur groupe.
La Turquie et le Portugal,
voilà. Et ils sortent du groupe. Donc c'est pas des peintres, ils savent jouer au ballon, ouais. Et ils l'ont prouvé hier soir.
Attention à l'excès de confiance.
Toujours.
On est dans une phase finale.
Il y a beaucoup d'humilité dans cette équipe. C'est pour ça que je pense qu'elle pourra peut-être aller encore un peu plus loin dans cette compétition.
Vous restez avec nous, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM. Vous pouvez réagir, on vous le rappelle, avec le hashtag TimeFoot, mais aussi en appelant le standard au 01 53 48 3000. On recevra de suite après la pause. Ça va se terminer. Il reste encore à peu près une quinzaine de minutes sur ce fil rouge. Le match entre la Tunisie et l'Angleterre, toujours un but partout. On aura l'ancien international tunisien Salim Benachour. À de suite.
TimeFoot revient dans un instant. Beurre FM, 21h, 22h, Time Foot avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 21h, 22h, c'est Time Foot avec vos consultants, je le rappelle, autour de la table pour m'accompagner durant 7h. Saliou Diouf, Zindik Nabil, Gilles Christ Lawson, Nabil Drissi. Yes. On vous oublie pas, vous pouvez réagir et gagner la twittosphère avec le hashtag TimeFoot, le compte officiel de l'émission, sans oublier aussi la fanpage Beurre FM sur Facebook et aussi sur sa page YouTube. Le 01 53 48 3000 pour réagir, notamment sur la Tunisie et aussi sur les Diables Rouges belges, le fil rouge de la soirée. Bien sûr, c'est le Tunisie-Angleterre, toujours un but partout. Nabil,
oui, la Tunisie, meilleure équipe d'Afrique, 19e au classement FIFA. meilleure que l'Algérie, Nabil.
Non.
C'est pas la Tunisie meilleure que l'Algérie. Alors,
s'il vous plaît, Tunisie-Angleterre 1-1. Les Tunisiens tiennent la baraque encore. Il y a eu un coup franc pour les Anglais et on a eu Dele Alli qui est sorti pour Loftus Cheek parce que les Anglais ont des noms un peu.
La réaction avec
pour rebondir à ce que vient de dire Nabil.
Ouais.
La Tunisie, le Maroc. Ne s'assoit pas avec la même table que les Fennecs.
Ah
oui,
là
c'est
là
sûr,
là
ça, c'est sûr. Les Fennecs ne s'assoient pas à la table de la
Jérusalem.
Nous, on est à la table des mondialistes.
Les Lions,
c'est un constat.
Les Fennecs, on les a pas vus, malheureusement. Ça va pas faire plaisir aux auditeurs de Beurre FM, ça.
Non, mais c'est le Maghreb, c'est trois pays.
C'est ça.
Mais non, mais pour être plus sérieux, on pense à nos amis algériens. Ouais. Ils nous ont fait rêver en 2014. On va les faire rêver en 2018.
Allez, on va prendre 5 petites minutes concernant les Diables Rouges. La Belgique arrivera-t-elle enfin à sortir de ce statut d'outsider? Pour vous, Gilles Christ.
Cette équipe de Belgique sur ce premier match contre le Panama.
Elle fait fort.
M'a déçu.
Ah, et là, c'est sûr.
Pose le contexte.
Pour moi, cette équipe fait fort. Et toi, non.
Mais parce
et pourquoi
en fait, parce que le score est trompeur. Cette équipe du Panama, donc, elle a peut-être du cœur, elle a peut-être montré beaucoup de.
Les Belges ont joué contre leur banquier. Hein,
Mais ça, c'est.
Ah ouais, non, mais c'est vrai. Les mecs, ils ont la moitié leur compte au Panama, ils ont joué contre leur banquier.
Non, mais parce qu'en fait, ces Belges, quand on voit. Quand vous voyez donc l'investissement des joueurs, l'attitude, le body language des joueurs sur ce match et aussi le score, moi je suis désolé, 3-0, ça devait être le score à la mi-temps. Les Panaméens n'avaient
c'est
pas forcément...
C'est déjà bien, 3-0,
c'est pas la tête. Une question de déjà bien. C'est juste que cette équipe du Panama, quand vous la voyez, donc en termes de discipline, elle n'a pas de discipline, elle laissait d'énormes espaces alors que c'était censé être une équipe qui jouait avec 9 défenseurs.
C'est ça le foot. Regarde, je vais te prendre
alors,
un exemple. Il y a une action où Eden Hazard reprend une passe en retrait du capitaine du Panama et là il a tenté l'extérieur je sais plus ou l'intérieur mais... et alors qu'il aurait pu faire un petit crochet et marquer mais c'est le foot, il a pris le risque de faire une frappe directement, là ça aurait fait 1-0
mais
directement
ça aurait,
et
fait, ça aurait changé, mais ça n'a pas fait
1-0 oui, 0-0 à la mi-temps,
mais c'est pas parce que le Panama a bien joué, c'est parce que la Belgique n'a pas bien joué.
Ce qu'il dit c'est intéressant parce que sous prétexte que les Belges n'ont pas marqué dans les premières minutes, et ben ils sont décevants.
Non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas marqué dans les premières minutes, c'est qu'ils avaient les occasions,
mais oui, mais c'est le football, ça louper des occasions, c'est le football.
Tous les éléments offensifs qu'ils avaient dans cette équipe, et c'est censé être leur point fort, ils n'ont pas converti les occasions alors qu'ils avaient la place. C'est même pas de la place, il y avait un boulevard. Il y avait un boulevard alors qu'il était censé avoir 9
défenseurs. Mais c'est pas la réalité, ça. Mais c'est pas la réalité.
C'est pas une question. Mais moi, je suis désolé, il faut que les auditeurs et ceux qui sont autour de sa table sortent du résultat. Le contenu du match, quand je regarde le match de la Belgique, je suis déçu de l'équipe de la
Belgique. Êtes-vous d'accord avec Gilles Christ?
C'est pas bien ce qu'il dit. Parce que
regardez,
pourquoi Salio?
Moi, je vous vois. Non, tu sais que Salio, je vous vois tous venir. C'est qu'après, sur le prochain match, quand ils vont jouer contre l'Angleterre ou la Tunisie et qui vont faire un match qui va être décevant.
C'est pas dit.
Là, on va encore taper sur la Belgique. Mais là, contre le Panama, l'équipe la plus faible de ce mondial, il fallait gagner. Mais ils ont gagné. C'est le contrat minimal.
Attends. Ouais. Est-ce qu'il y avait du rythme en première mi-temps?
Quel rythme?
Du rythme chez les Belges.
Je suis désolé, c'est insuffisant.
Mais attends, il n'a pas répondu.
C'est
Gilbert Montagnier, toi, sans déconner. T'as pas regardé le match.
Non, je suis désolé, je regarde.
Il avait du rythme.
Mais quel rythme? Quel rythme a imposé la Belgique par rapport au Panama?
Comme il y a 3-0.
Pourquoi il y a 0-0? C'est parce que le Panama joue à sa main par rapport à cette équipe de Belgique.
Ah oui, si vous n'êtes pas d'accord avec Gilles Christ, vous pouvez réagir au 0-1-53-48-3000. Nabil Lazindic, d'accord avec Gilles Christ?
Non, je suis pas du tout d'accord.
3-0, c'est fort, Nabil. Toi qui t'intéresse de près à ce championnat, Jupiler. Belge.
Oui, non, tout à fait. Mais moi, je suis convaincu par cette équipe belge. Là, cette année, ils ont un vrai sélectionneur qui est Roberto Martinez. Hein, faut pas oublier. Et puis ils ont une armada offensive. Lukaku,
Thierry Henry aussi, faut pas l'oublier.
Thierry Henry qui fait du bon boulot, faut le souligner. Il y a Eden Hazard qui a pris cette équipe. De Bruyne, Witzel. Vertonghen, Alderweireld. Il y a que des grands joueurs.
Mais là, c'est
pour toi, un grand gardien.
Mais ça, c'est le papier, ça.
Mais après, collectivement, la prestation, c'était fluide dans le jeu.
C'est
une des équipes qui m'a le plus convaincu avec l'Angleterre. Après, effectivement,
mais parce que
avec le Brésil. Ah, mais... la première mi-temps des Brésiliens était juste magnifique contre les Suisses.
Elle était bonne.
Il y avait des passes va, des passes suit, des dédoublements, des corners. Ça jouait super bien au ballon. Maintenant, les Belges qui gagnent 3-0 contre le Panama, effectivement, tout le monde les voyait gagnants. Ça, c'est une certitude. Parce que c'est un outsider, la Belgique.
Ouais.
Mais il faut quand même gagner 3-0.
Alors,
parce
faut,
que dans
faut gagner 3-0.
On se rend compte que dans le mondial, il n'y a plus de petites nations. Il n'y a plus de petites équipes.
Mais non, il y a eu une petite nation. Il y a le Panama.
De tomber, c'est l'avion en vol interne à travers la Russie. A pris feu l'avion des Saoudiens. Mais les joueurs saoudiens de l'Arabie Saoudite ont dû vraiment s'inquiéter sur lundi soir, sur un vol. Mais bon, rien de grave si... c'est bien ça, salut, hein, sur cette info.
Ouais, c'est un moteur de leur avion qui a pris feu en fait à l'atterrissage. Il y a pas de problème pour les joueurs, mais c'est une frayeur quand même.
Ouais, quand même, grosse frayeur pour la sélection.
Ça va être compliqué. Ils étaient perturbés, ils ont perdu 5-0 contre les Russes là.
C'est... Même moi, ça me perturbe assis sur ma chaise là, qui ait peur de l'avion. Je peux vous dire que ça me fait des petites bulles au ventre.
Non, Nabil. Justement, on va enchaîner avec notre dernier débat, excusez-moi, concernant cette sélection tunisienne, Nabil.
Oui.
Toujours un but partout face aux Anglais, 85e minute.
Sortie de, si tu peux me,
ouais,
si
vas-y,
tu me permets, sortie de Kasri, entrée de Ben Amor, qui est un milieu de terrain défensif. Et là, il reste à peu près une dizaine de minutes.
Donc la Tunisie joue le nul.
Comme on parlait hors antenne, Mahloud, je pense l'entraîneur va jouer le nul. De toute façon, il ne peut pas jouer autre chose vu qu'on jouait qu'avec un 9. Et que ça
la raison, vaut mieux faire un nul qu'une défaite dans le premier match.
Alors, justement, la Tunisie peut-elle redorer le blason africain contre cette sélection anglaise, pays créateur fondateur
pour l'instant, oui,
du football,
pour l'instant,
Nabil,
oui, parce
l'indique.
Les Tunisiens défendent bas, là, ils essaient de maintenir le score à 1, ça serait un bon score. Parce qu'après, tu as le Panama et la Belgique, donc ils peuvent sortir de cette poule comme l'Algérie. Ça me fait penser un peu à l'Algérie en 2014, et puis en 2010, on avait fait 0-0 contre l'Angleterre. Donc je pense que les Tunisiens veulent absolument garder ce score de nul, ça serait pas mal.
Ils jouent un peu c'est Lopetegui quand il avait l'Espagne avait affronté en match amical la Tunisie qui disait que les Tunisiens jouent un peu comme les Italiens, on ne garde pas le ballon, on laisse jouer l'adversaire, on lui laisse le ballon et on joue en contre.
Tout à fait.
C'est ce qui s'est passé là ce soir, hein. Ils mettent un but.
C'est ce qui se passe là actuellement. Ils défendent tous là, ils sont tous très très bas, en bloc bas les Tunisiens et puis ils vont jouer les contres.
Gilles Christensen, concernant cette sélection tunisienne.
Ah, cette sélection tunisienne, elle a marqué le premier but africain donc dans cette compétition, mais c'est aussi elle m'a ennuyé, comme la plupart des équipes africaines.
On l'aura compris, lundi soir, tous les matchs plutôt.
Je suis en colère pourquoi c'est
ennuyé.
Parce que regardez, les 5 buts qu'ont encaissé les nations africaines depuis le début de la compétition, ce sont 5 buts sur coups de pied arrêtés.
Coups de pied arrêtés, ouais.
Que des coups de pied arrêtés, penalty. Corner. Je suis désolé. Il faut qu'on travaille donc sur ces aspects défensifs, justement dans la discipline, dans la surface de réparation, sur comment travailler donc les coups de pied arrêtés défensifs quand on est peut-être dans une situation, on est en sous-nombre.
Peut-être tactiquement ou manque de concentration.
De concentration, parce qu'il y a des buts qui sont arrivés dans les arrêts de jeu, il y a des buts qui sont arrivés donc avec des buts contre son camp. Voilà. Et donc cette équipe tunisienne, c'est pas normal que sur le but donc qui a été marqué par le capitaine Harry Kane, que l'arrêt de Mouazassen qui
sa décharge
il était blessé mais il fait un super arrêt, mais personne ne suit après son arrêt et donc ils étaient peut-être 3 à reprendre le ballon, et ça c'est encore un problème donc qu'il y a donc dans nos sélections africaines. Mais la réaction d'orgueil des Tunisiens a été salvatrice, même si le penalty il est un peu tombé du ciel, mais voilà. Donc,
ils sont allés le chercher.
Sur la seule action, il faut la jouer à fond. Ils l'ont joué à fond. Il y a eu pénalty. Ils ont marqué un but partout. Maintenant, on espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la rencontre.
Salut Odiouf.
Mais c'est marrant. C'est marrant de cette question-là, parce que si tu prenais la température avant le mondial, des 5 sélections africaines, la vie était générale. La Tunisie allait se faire sortir et c'était la plus faible.
Alors moi, je pensais le contraire. Honnêtement, quand j'ai vu les matchs amicaux de la Tunisie contre le
Costa Rica, ou
l'Iran, après la prestation contre le Portugal, ils font match nul et après contre l'Espagne, ils perdent 1-0. Non, cette équipe tunisienne me fait forte impression et je pense que c'est l'équipe qui peut sortir.
Parce que même les Tunisiens eux-mêmes le disaient, voilà, on parie pas grand sur
il y a pas de star quoi, il y a
pas de meufs dans cette équipe.
D'ailleurs, il manque leur meilleur joueur qui est blessé.
Les gars, on est la Tunisie, c'est 10 millions d'habitants après la révolution, 12 millions avec les réfugiés libyens. La Tunisie est une petite nation. La Tunisie est la première nation africaine en 78 au Mexique à avoir battu le Mexique.
Mais c'est une grande nation de football parce que c'est une nation qui participe régulièrement à la Coupe du Monde.
Ouais, 5 participations. C'est le premier championnat professionnel en Afrique. On produit du joueur, on sait jouer. Maintenant, on cherchait cette osmose entre joueurs évoluant à l'étranger ou nés à l'étranger et les joueurs locaux. Et là, Nabil Mahlou réussit à le faire. Il tient en échec les Anglais 1-1. C'est bientôt fini. Voilà, on rentre dans le temps additionnel. La Tunisie peut faire quelque chose. Il ne faut pas se brûler les ailes. Faut prendre les matchs les uns après les autres et ils vont réussir.
4 minutes additionnelles. Il reste 4 minutes.
Quand même, c'est la nation anglaise, c'est pas rien du tout.
Non,
ils font forte impression. Moi, j'étais convaincu.
Les Anglais ne commencent pas forcément bien les compétitions. Hein,
depuis, et les finissent toujours mal. De toute façon,
ils partent en 66. Ils ne sont pas oubliés 98. Ils avaient perdu 2-0 contre cette même nation.
Oui,
donc, non, je pense que le sélectionneur a fait du très très bon boulot.
Salut.
Elle vous fait rêver.
Même si c'est chaud.
But pour l'Angleterre.
But pour l'Angleterre.
Sur un coup de pied arrêté.
Sur un nouveau coup de pied arrêté.
Dans les arrêts de jeu.
Quand je dis que je suis déçu, je suis en colère. Voilà, on veut me tomber dessus.
Ah, mais ça, c'est fort, Sadio, ce qu'il arrive là au Tunisien, malheureusement. C'est incroyable.
C'est le syndrome Lafouine, en fait. J'ai dit, est-ce que vous fait rêver
pour les Anglais?
Et bam.
C'est dommage.
Marquage au deuxième poteau, il n'y a personne sur Harry Kane qui se libère. Voilà, il se retrouve seul au deuxième poteau.
Au deuxième poteau, c'est ça.
Pendant qu'on a deux joueurs sur la ligne à côté du gardien.
C'est incroyable, Nabil Zindik, ce que vient oui, magnifique but quand même de
Harry Kane. Il est tout seul, Bilou, il est tout seul au deuxième poteau.
Personne
là. C'est quoi ce marquage?
Derrière lui,
Gilles
Christ.
Sixième but.
Les nations africaines peut-être trop fébriles, Gilles Christ.
Et puis, bizarrement, le joueur est encore dans le poteau aussi.
Mais sixième but encaissé par une nation africaine, sixième coup de pied arrêté.
Voilà,
en fait, ça montre aussi que ces nations africaines ne sont pas inférieures dans le jeu à ces autres
équipes
des confédérations et que ça se joue sur des coups de pied arrêté. Quand ça se joue sur des coups de pied arrêté, c'est vraiment sur des phases statiques, il faut travailler et c'est ce qu'il faudra faire par la suite, et en espérant peut-être que dans les arrêts de jeu les Tunisiens gagnent, reviennent au score, mais bon, ça va être difficile.
Ils sont pas disciplinés.
En tout cas, Harry Kane commence bien sa Coupe du Monde.
Chers auditeurs, vous pouvez réagir au 01 53 48 3000, on a peut-être une personne avec nous. Non, au standard, on va enchaîner, vous inquiétez pas. Justement, ces Tunisiens, malheureusement, le changement de Lingard, assez heureux sur cette fin de rencontre, car c'est vrai que ça va leur donner ces 3 points. Et les supporters tunisiens, Nabil, un peu voilà.
Ah, je suis abattu.
C'est vraiment abattu. On tenait le match nul, Nabil.
Après, ils ont trop voulu jouer. On en parlait avec Nabil en off. Les Tunisiens jouaient le match nul, beaucoup trop à mon goût. Et voilà, tu étais puni sur un coup de pied arrêté. Maintenant, ils vont attaquer. Il leur reste 3 minutes. Ils vont essayer de contre-attaquer. Impossible n'est pas tunisien. Ils peuvent marquer. Ils l'ont fait contre le Portugal en revenant à 2-2.
Ouais.
Et en revenant à 2-2, ils ont tenu en échec les Espagnols. Ils sont partis embêter le Costa Rica de Keylor Navas. Donc, voilà.
Ils poussent, ils sont en train de pousser là. Ils sont en train de pousser, les Tunisiens.
Ils peuvent le faire. Il faut que le sélectionneur tunisien fasse un dernier changement.
Ouais, mais ça restera assez compliqué quand même pour revenir au score avec ces 4 minutes de temps additionnel. Gilles Christ, peut-être quelque chose à rajouter avant la dernière page de pub. On t'écoute, Gilles Christ.
Voilà, bon, maintenant on attend maintenant le Sénégal et peut-être que le continent africain et la CAF va faire peut-être un grand chelem à l'envers avec 5 défaites en 5 matchs.
Mais
bon, voilà, on espère
sois
que
optimiste,
les
Gilles Christ.
J'espère être optimiste, mais là ça m'invite pas à être à la fête, quoi.
Oui, Sadio. Okay. Allez, on te laisse le temps de réagir aussi.
Non, sur la Tunisie ?
Oui, concernant la Tunisie.
Bah, moi, je suis déçu, franchement, sur le coup, parce que j'y croyais dur comme fer au match nul. Et finalement, ils ont cédé avec un manque de rigueur tactique. Il n'y a rien d'autre à ajouter, en fait. Il faut bosser à l'entraînement, la tactique. Les Africains doivent se mettre au niveau des Européens, Sud-Africains, tout ça.
Surface
de coup de pied arrêté, bien sûr.
Vous restez avec nous, chers auditeurs et chers auditeurs. Une courte pause avant de revenir avec notre ancien international tunisien, Salim Benachour. N'oublie pas le hashtag du même nom que l'émission Time Foot. À de suite.
Time Food revient dans un instant. Beurre FM, 21h-22h. Time Food avec Bilal Nenman.
Et de retour à fond la caisse dans cette émission Time Foot du lundi au vendredi, 21h-22h sur l'antenne de Beurre FM avec vos consultants. Salut Diouf, Zendik, Nabil, Gilles Christ-Losson et Nabil Dressy pour m'accompagner durant cette heure. On termine justement cette émission avec l'ancien international tunisien Salim Benachour. Bonsoir Salim.
Bonsoir.
Comment allez-vous Salim?
Très bien, merci.
Eh oui,
bien.
Mauvais résultat. Mauvais résultat. On est un peu tristounés, nous, ici, dans le studio de Beurre FM. Mais justement, votre réaction à la suite de ce match, on y croyait avec ce un but partout tout de même?
Bah, on y croyait. On a fait un match correct dans l'ensemble. On a défendu. On a bien défendu en bloc. On a gardé le ballon sur des temps de possession très bonnes. Sauf que voilà, un coup de pied arrêté. On sait très bien que les Anglais sont très très bons dans ce domaine-là. Et il fallait éviter tout ce qui est coup franc, centré, corner. Et bon, ils ont marqué dans la minute sur un coup de pied arrêté. Mais c'est dommage. C'est dommage.
Ouais. Le match nul contre le Portugal des Tunisiens en amical, on croyait que c'était peut-être une base de travail solide. Qu'en pensez-vous, Salim?
Non, je pense qu'il ne faut pas jeter tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quand même un match solide. C'était réfléchi de derrière. À un moment donné, ça ne paniquait pas. Ça a essayé de sortir, même s'il y a eu du déchet. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fond fait par Nabil Malouf. Les joueurs, je les trouve très très intéressants. Ils ont mouillé le maillot. Voilà, maintenant ils ont pris un but à la dernière minute. C'est comme ça, c'est le football, c'est cruel, mais on va relever la tête pour le prochain match.
Alors justement, un consultant aussi originaire de la Tunisie, c'est Nabil Dressy, compatriote Salim Benachour. Nabil.
Bonsoir Salim.
Bonsoir Nabil.
Est-ce que Mahloul n'a pas trop joué le match nul en deuxième période, ce qui a mis à mal l'équipe et ce qui pousse les Anglais ont poussé tout le long de la deuxième période et à trop vouloir jouer le match nul, les Tunisiens ont pris un but à la dernière minute.
Je pense aussi, Nabil, je pense que qu'en première ils étaient nettement meilleurs parce qu'ils ont eu des occasions, ils ont eu quelque chose, il y a eu des sorties de balles. En deuxième, c'est vrai qu'on est resté beaucoup plus derrière. Je pense qu'il fallait rentrer à apporter plus de pression plus tôt. Après, bon, je ne suis pas coach, mais c'est les choix de Nabil. Après, il faut respecter. Mais c'est clair qu'on aurait pu mieux faire en deuxième.
Oui, rapidement.
Oui, bonsoir.
Avec Salim.
Salim
Benachour.
Moi, j'ai bonsoir. Une question à te poser. C'est précis. Généralement, c'est souvent les sélections africaines qui sont concernées par ce problème-là, un manque de rigueur tactique. Et ce soir, est-ce que tu penses que c'est acceptable à ce niveau-là d'encaisser le deuxième but tunisien?
Bah, trop défendre, on se met en difficulté, ça c'est clair. Surtout que les consignes, c'était d'éviter justement les corners et les coups francs excentrés, parce qu'on sait très bien qu'ils ont des joueurs de taille et qu'ils sont très, très forts dans ce domaine. Après voilà, c'est à trop défendre, c'est clair qu'on se met... On se met en difficulté, comme j'ai dit, et je pense qu'il aurait fallu jouer quoi, en deuxième mi-temps. Mais bon, après, il y a eu aussi un gros pressing des Anglais. Il y a eu aussi en deuxième mi-temps un tout autre visage anglais. Donc, c'était aussi un peu plus difficile. Et voilà, après, bon, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est pas fini.
Oui.
La Belgique, je pense que l'Angleterre est meilleure que la Belgique. J'ai regardé le match de la Belgique. Je pense que les Anglais sont meilleurs.
Ouais.
Après, j'espère qu'on va
relever
la tête.
Merci Salim Benachour, ancien international tunisien, passé par le Paris Saint-Germain, le FC Martigues ou encore Troyes, mais aussi en Liga avec Malaga, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM dans l'émission Time Foot. Ouais, il nous a laissé, ça ne fait rien. Alors, en tout cas, il a été très sympa pour le temps accordé à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, l'agenda de demain.
Time Foot, l'agenda.
Alors justement, avec demain sur le groupe H, on aura un Colombie-Japon, chers auditeurs et chers auditeurs de Beurre FM, à 14h. Il ne faut pas oublier aussi dans le même groupe le Pologne-Sénégal à 17h. Et aussi, on espère, le retournement de situation des Égyptiens face au pays hôte qu'est la Russie. À 20h. On vous laisse en compagnie de Vanessa, comme à son habitude sur l'antenne de Beurre FM chaque soir. Et on vous dit rendez-vous demain avec de nouveaux consultants sur l'antenne de Beurre FM dans votre émission Time Foot 21h-22h.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 21h à 22h sur Beurre FM.